Ok, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes en train d'étudier depuis déjà un peu plus d'un mois, bientôt même deux. C'est vrai, on a suffisamment regroupé cet enseignement. Mais nous voulons prendre le temps d'aller étape par étape, sur cet enseignement qui est apprendre à agir selon les saisons de la vie. Apprendre à agir selon les saisons de la vie. Alléluia. Nous avons dit ceci, c'est que il y a des saisons que Dieu a instaurées, qui ne dépendent pas de vous, qui sont du fait de Dieu. On a vu dans le livre de la Genèse, Dieu dit, aussi longtemps que la terre va exister, la loi des saisons va demeurer. Donc les saisons existent. Et les saisons, nous les connaissons de manière naturelle, comme les saisons de pluie, de manière physique, les saisons de pluie, la saison sèche, etc., etc. Quand vous partez du côté de l'Occident ou de certains pays du Nord, on peut citer, on va aller jusqu'à citer même quatre saisons, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Voilà, on va citer donc ces saisons. Et les saisons naturelles sont favorables ou bien induisent certaines actions de l'homme. Les saisons naturelles induisent certaines actions de l'homme. Et si pendant la saison, tu t'opposes, tu n'as pas la bonne attitude, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés. Ainsi, lorsqu'on arrive dans la saison du froid, dans la saison de l'hiver, l'hiver t'impose une tenue particulière. Alléluia. Ce n'est pas qu'on t'interdit de te promener nu. Si tu veux te promener nu dans le froid, tu peux. Mais le danger, c'est que tu vas te prendre une maladie et tu risques de mourir. Voilà. Donc ça, ce sont les saisons. Les saisons aussi, les saisons ont une influence sur l'atmosphère. Elles induisent l'atmosphère. Pendant cette période donnée, il y a certaines choses qui sont favorables. Si tu agis dans une, si tu fais, tu poses certains actes dans certaines saisons, ça te sera favorable. Pendant les saisons de pluie, mais juste avant même qu'elle commence, c'est la saison favorable pour faire de la semence. Car lorsque tu vas semer, la pluie va arroser ta semence et elle va donner son fruit. Voici donc globalement ce que sont que les saisons. Et ces saisons-là, comme nous l'avons dit, ne sont pas seulement physiques, pluie, été, hiver, tout ça, mais elles sont aussi spirituelles. Et on a lu différentes références bibliques qui en parlent. Et nous avons dit ceci, que dans les saisons, il y a deux grands groupes de saisons. Il y a celles que nous avons appelées les saisons de la vie, qu'on peut aussi appeler le temps. Alléluia. Voilà, qu'on peut aussi appeler le temps. En regardant, j'ai vu que c'est ce que le Seigneur aussi appelle le temps, les saisons de la vie, parce que le temps ne revient pas. Amen. Le temps évolue. Le temps, c'est le temps. Une heure vient de se passer, j'étais chez moi à la maison, ça ne va plus revenir. Le temps est passé. Donc ce sont les saisons de la vie. Les saisons de la vie ne sont pas cycliques. Elles commencent, elles comptent jour après jour, elles avancent jusqu'à la mort. Et les saisons de la vie se subdivisent en trois grandes, les saisons de la vie, on dit les, au pluriel, pour dire qu'il y en a plusieurs. Mais il y en a en tout grandement trois. On peut même aller, on peut forcer à quatre, en parlant de l'âge et la vieillesse. Alléluia. Ou qu'il y ait une saison où tu ne peux pas travailler, où tu t'assois, et les choses que tu as investies dans ta jeunesse et dans l'âge adulte viennent maintenant prendre soin de toi. Amen. Si tu as bien formé tes enfants, tu as bien béni leur vie, dans tes vieux jours, ils t'entretiennent. Amen. C'est aussi une saison. Mais globalement, on peut diviser les saisons de la vie en trois grandes saisons. L'enfance, la jeunesse et l'âge adulte ou la période de la maturité. Voici un peu globalement les saisons de la vie. Dis avec moi encore les saisons. Et ces saisons-là se retrouvent aussi dans le monde spirituel, comme je le disais tantôt. Et les saisons de la vie se retrouvent dans toutes choses, dans tous les domaines de la vie. Tout ce qui a un commencement et une fin, tout ce qui est un commencement et une fin, et progresse dans ces trois saisons. La chose est enfant à un moment donné, elle devient jeune à un moment donné, et elle devient adulte à un moment donné. Et on a dit ceci, c'est que les saisons ne sont pas identiques, la période des saisons n'est pas identique par espèce. Chaque espèce, ou bien chaque chose, a sa propre saison. Le chien est enfant, jeune et adulte dans un cycle différent de l'homme. Un chien est déjà adulte à l'âge de 3 ans. Mais à 3 ans, chez les hommes, tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé. Alléluia. Donc, chaque espèce a sa saison. De même que chaque espèce a sa saison, chaque activité aussi a ses saisons. Et elles ne sont pas identiques. Alléluia. Tu ne peux donc pas les étapes, tu ne peux donc pas les cataloguer, les bloquer dans une période pour dire que dans ce cas-ci, voilà, ça va prendre, j'aurai 4 ans de jeunesse, 17 ans de vieillesse. Tu ne peux pas établir les choses comme ça. Tu ne peux sentir l'évolution des saisons que par le principe de l'observation. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'espère que nous pourrons, j'espère. Bon, on va avancer, on va dire ce qu'on peut. Amen. Voilà, pour les saisons de la vie, on a cité 7 lois. Et la dernière fois, nous avons fait la 4e loi. La 5e, amen. Je récite rapidement donc les 7 lois. Là, c'est totalement au début des diapos. Est-ce que vous les avez à l'écran, si vous avez les 7 lois là? Bon. La première loi, c'était quoi? Ok, voilà, je les ai là. La première loi, discerne les saisons de la vie. La deuxième loi, c'est ce qu'on appelait la loi de l'autorité. Amen. Elle parle du pouvoir. Aujourd'hui, je vais parler dessus. Je vais vous parler encore du pouvoir. Alléluia. Je vais citer certaines choses sur le pouvoir. La loi de l'autorité parle du pouvoir. Vous savez, nous tous, nous recherchons le pouvoir. Alléluia. Tout le monde cherche le pouvoir. Dis à un voisin, tu cherches le pouvoir. Alléluia. J'écoutais un message où l'homme de Dieu expliquait que le pouvoir, en fait, c'est la capacité de contrôler les circonstances. Nous tous, on cherche le pouvoir. En réalité, on ne cherche pas l'argent. Mais on cherche le pouvoir que donne l'argent. Vrai ou faux? Alléluia. L'argent te donne le pouvoir de contrôler tes circonstances, de contrôler tes voyages, de contrôler ta nourriture. Donc, nous tous, on cherche le pouvoir. Dis à un voisin, tu cherches le pouvoir. C'est pas juste? Alléluia. Mais ce n'est pas mauvais de rechercher le pouvoir. Dieu a mis en l'homme la quête du pouvoir. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, si vous aspirez à la charge d'évêque, c'est une bonne chose. Amen. Dieu n'est pas contre le pouvoir. Dieu a créé l'homme afin qu'il domine, Genèse 1, 26, afin qu'il ait du pouvoir. Dominer, c'est avoir le pouvoir. Dieu a quelqu'un le pouvoir. Amen. Voilà, mais... Attends, qui cherche pas le pouvoir? On veut tous le pouvoir, mon frère. Mais le pouvoir de Jésus, le pouvoir dont parlent les Écritures, est différent du pouvoir qui est dans ce monde. La quête du pouvoir est légitime. Mais la manière dont nous la cherchons et la vision que nous avons du pouvoir est tronquée, elle est fausse. Alléluia. Nous établissons généralement le pouvoir comme étant le contrôle des autres. Tout le monde a envie de s'élever pour pouvoir dire à quelqu'un, va à droite, et il va à droite, va à gauche, et il va à gauche. Ça, ce n'est pas le pouvoir que Dieu donne. Alléluia. Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Nous cherchons le pouvoir qui est dû à la position sociale ou à la position administrative. Ce n'est pas le pouvoir selon Dieu. Tu peux être chef d'État, tu peux être directeur d'une entreprise, mais Dieu ne te considère pas comme étant un leader, il ne considère pas que tu as le pouvoir. Les lois pour obtenir le pouvoir de Dieu, les pouvoirs selon Dieu, sont très différentes. Alléluia. Dieu a créé l'homme afin qu'il domine. Alors, certaines personnes ont demandé à Jésus, mais parmi nous, qui est le plus grand? Eux, ils voyaient le plus grand dans le sens du pouvoir selon le monde. Et Jésus leur dit ceci, le leader le plus grand, celui qui a le pouvoir selon... Celui qui a le pouvoir dans le royaume de Dieu, amen, c'est celui-là qui sert les autres, amen. Celui qui sert les autres. Ça ne signifie pas qu'il devient l'esclave des autres. Jésus n'a jamais dit de devenir esclave d'une personne. Quand Jésus dit celui qui sert les autres est le plus grand, il ne dit pas de devenir esclave des autres. Que tu es là et puis tout le monde te dit à droite, tu vas à droite, à gauche, tu vas à gauche. C'est pas de ça que Jésus parle. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui apporte un service. Mais qu'il apporte quel genre de service? Il apporte le service de son talent, la grâce que Dieu a déposée dans sa vie, il la développe jusqu'à un certain niveau et c'est cette grâce-là qu'il prend pour servir les autres. Ça veut dire, il dit, par exemple, moi Dieu m'a donné la chanson, je sais chanter et il t'offre la chanson. Il te permet avec sa voix, avec son talent d'écouter. Et lorsqu'il est excellent, lorsqu'il fait ce à quoi Dieu l'a appelé, effectivement, il en servant, il devient, sans que vous forciez, un leader. Amen. Et le leader qu'il devient influence les autres par inspiration. Parce que lorsque les gens le voient, il devient un modèle. On a envie de faire comme lui. Voici la forme de leadership que le Seigneur attend. Amen. Ce n'est pas le pouvoir de la nomination. Alléluia. Même si on t'a donné un poste, c'est bien. Mais tu n'es pas encore un leader. Tu seras un leader lorsque tu auras développé ton don et ton talent au point que les autres, en te regardant, trouvent en toi un modèle et un exemple. En regardant ton don et ton talent et non ton poste hiérarchique. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on a parlé de la loi de l'autorité. La loi consomme le fruit en son temps. Ça va consommer le fruit en son temps. La quatrième loi que nous avons étudié la dernière fois, c'est savoir poser les bases durant l'enfance. La cinquième loi, c'est apprendre les lois et les clés durant la jeunesse. Sixième, multiplie toi dans la maturité. Et la septième loi, la loi du rachat. Alléluia. Alléluia. Touche un voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, on va vraiment insister sur la loi du rachat. Racheter le temps, bien sûr. En touchant la loi de la maturité. Amen. En ce qui concerne la loi de l'enfance, nous avons dit ceci. La quatrième loi, poser les bases durant l'enfance. Comment on va toucher la loi du rachat? Juste rappeler ce que je vous avais dit la dernière fois. Poser les bases durant l'enfance. Ou bien, j'avais intitulé comme cela, accepter de recevoir les bases durant l'enfance. Tout ce qui naît, toute chose qui passe par sa saison d'enfance, a besoin d'avoir en soi, en lui-même, des bases, les fondements. Nous l'avons expliqué la dernière fois. Et j'ai pu répéter, je peux établir les choses en trois grandes bases à poser. Ce que je vais appeler les principes de l'honneur, les valeurs et le rêve. Alléluia. Je vais les citer rapidement et puis, quand on va parler du rachat, on va revenir en détail là-dessus. Si j'ai un enfant, c'est que je dois voir mon enfant, mon bébé. Qu'est-ce que je vais lui expliquer? Dans ce qu'on appelle les principes de l'honneur, la loi du père, honore ton père et ta mère. Alléluia. Voilà. L'enfant doit apprendre très tôt à respecter les autorités, à savoir qu'il y a des autorités par son père, par sa mère. C'est une base. S'il rate cette base durant l'enfance, qu'on appelle l'ensemble des principes de l'honneur, s'il rate cette base, il va devenir un rebelle. Alléluia. Lorsque vous commencez une entreprise et vous travaillez avec des personnes, j'ai dit que l'entreprise est enfant. Il faut que dans cette entreprise-là, une des premières lois, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur permet de respecter les lois dans la boîte, dans la structure. Il faut les établir. Qui fait quoi? Qui est responsable de temps? Et veiller à ce que la loi de l'honneur soit respectée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, 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 amen. C'est très important. Si votre bébé n'apprend pas, ne respecte pas son père, il ne respectera pas le chef de l'État, il ne respectera pas le pays. Il ne respectera pas ses chefs. Et si toi-même, lorsqu'on va toucher la loi de rachat, tu n'as pas eu d'autorité sur ta vie, tu dois racheter cela. Il y a des personnes qui refusent d'avoir un responsable. Même s'ils viennent, officiellement, ils vont dire, tu es mon pasteur. Mais dans leur cœur, ils n'acceptent pas d'être soumis. Ils ont manqué cette base et ça va leur poser un problème. Alléluia. Alléluia. L'enfance a besoin, qu'on appelle encore comme base, les valeurs. L'intégrité, la droiture, la justice. Il faut les inculquer à l'enfant dans les valeurs. Vous avez tout ce qui est éducation, il faut les poser, les choses de base. Et il faut poser la base du rêve. Tout ce qui commence enfant. Le rêve, par exemple, est une base qu'il faut très souvent racheter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je me suis rendu compte en fait que en priant pour ce sujet, je regardais l'exemple de Joseph et Dieu qui dit à Joseph, en fait, le Seigneur, pendant Joseph dans sa période d'enfance, le Seigneur le visite et lui donne la vision. Ce pourquoi il vit. Quand vous avez un enfant, depuis qu'il est petit, dites-lui qu'il est important. Dites-lui que, donnez-lui un rêve de la vie, un idéal, quelque chose à atteindre. Alléluia. Alléluia. Moi, quelquefois, j'aime prendre mes enfants. Et puis, lorsqu'on tourne, je dis, vous voyez, nous sommes appelés à aider. Quand tu vas grandir, fiston, tu vas aider. Il dit, tu vois, il ne faut plus qu'il y ait des pauvres. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quel est le métier que tu vas faire. Ça n'a rien à voir avec le métier. Une vision, ce n'est pas un métier. Une vision, c'est un rêve, quelque chose qu'on a envie de voir solutionner. Le rêve est important comme base lorsque vous avez aussi une entreprise. Là, je parle de votre enfant. Quand des personnes viennent travailler, votre entreprise enfant, il faut leur communiquer très tôt où ils s'en vont. Si vous ne communiquez pas la base, vous allez devoir la racheter. Parce que votre entreprise, lorsqu'il n'y a pas de vision, rappelez-vous ceci, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Vous ne pourrez pas contrôler plus tard votre entreprise, votre famille, s'il n'y a pas de vision. Alléluia. S'il n'y a pas de rêve, depuis l'enfance, ça va poser un problème. Le rêve est nécessaire lorsque vous venez de commencer un couple. Monsieur, est-ce que ton couple, lorsque votre couple était enfant, madame, lorsque ton couple était enfant, avez-vous communiqué le rêve? Si vous ne l'avez pas fait, septième loi, la loi du rachat. Ça veut dire ta femme et toi, vous t'assis, où on part dans la vie? Amen, 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 amen. Si vous n'avez pas fait ça, il y a une base que vous avez ratée dans l'enfance. Écoutez-moi, parmi nous, il y a beaucoup de bases qu'on a tous ratées dans l'enfance. Dans beaucoup de domaines, ne soyez pas... Alléluia. Tu peux être vieux en âge et être enfant dans certains domaines de ta vie où tu as manqué de respecter ces principes. Alléluia. Et on avait dit ceci, quand les fondements sont renversés, psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste... Que ferait-il? Je reviens, j'insiste là-dessus pour dire, le passage nous dit ceci, pour dire ceci, que la justice ne tient pas s'il n'y a pas de fondement. La raison, quand tu dis, tu vis dans ton foyer, tu es dans ton couple, et puis tu dis, mon mari fait toujours les mêmes erreurs. Tu remarques quelque chose? C'est un temps que je parlais beaucoup des retards, par exemple. Mais c'est une attitude négative que vous reprochez, par exemple, à votre conjoint, à votre femme ou à votre épouse. C'est une attitude négative que vous reprochez. Si vous parlez une fois que vous voyez que ça ne passe pas, si vous parlez deux fois que vous voyez que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème d'enfance. Il y a un problème de fondement qui a été manqué. Parce que si le fondement n'est pas bon, la justice ne peut pas passer. C'est-à-dire, ce qui est vrai ne fonctionne plus. Quand les fondements sont renversés, quand les bases sont renversées, le juste que ferait-il? Lorsqu'il n'y a pas de fondement, un homme ou une personne n'est plus raisonnable. La raison est relative à la fondation. Amen. Ou bien la raison, le fait de savoir que quelqu'un marche de manière raisonnable est fonction des bases. Alléluia. Si les bases sont ratées, il vous est très difficile. Tu vas prendre ton conjoint et tu dis, la Bible dit, honore ton père et ta mère, ou bien tu dis soumets-toi à ton conjoint. Elle va dire, aujourd'hui j'ai compris, mon mari j'ai compris. Le pasteur a parlé à l'église. Voilà la justice de la parole de Dieu. Mais lorsqu'elle était enfant, on ne lui a pas enseigné ou on ne lui a pas inculqué la loi de l'honneur. Donc, où elle a manqué de la loi de l'honneur à cause de la relation qu'elle a eue avec ses parents. Elle a beau lire dans les Écritures, tu dois te soumettre à ton mari. Mais ce n'est pas applicable parce que la justice ne peut pas tenir si les fondements sont faussés. Or, les fondements se posent dans l'enfance. Si on manque les fondements dans l'enfance, il est très difficile de rectifier quelque chose. Tu vas expliquer, la personne ne comprendra pas. En fait, elle comprend même. Elle dit, c'est vrai. Mais la défaillance là est dans ses gènes. Alléluia. Alléluia. Moi, pour travailler comme ça sur la gestion du temps, c'est une valeur que j'ai ratée dans mon enfance. Le temps. Mais j'ai dû racheter, frère. Et même encore, ce n'est pas fini. J'ai encore de l'argent à donner. Quand je dis racheter, ça dit des efforts à fournir. Parce que c'est quelque chose que j'ai manqué. Le respect de la parole, c'est ce qu'on appelle des valeurs. Le respect de la parole. Alléluia. Ce sont des bases. Et lorsque tu montres ceci, la parole n'a plus de valeur. Quand tu vas arriver, tu fais des promesses, tu ne tiens pas. Tu fais des promesses, tu ne tiens pas. On a beau t'expliquer. Un enfant de Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Mais, la Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste ou bien la justice, est-ce qu'elle peut tenir? C'est ce que le psaume 11, verset 3 dit. Le problème, il ne s'agit pas maintenant d'essayer de faire des corrections. Il s'agit d'aller racheter le temps, de repartir dans les fondations et de racheter le temps, de corriger la chose. Et quelquefois, madame, monsieur, vous aurez à payer le prix pour votre conjoint du rachat du temps. Vous allez vous deux vous associer pour racheter le temps que vous avez perdu mutuellement. Mais quand vous comprenez le principe du rachat du temps, vous souffrez moins. Parce que vous comprenez comment ça fonctionne. Amen. Alléluia. C'est ce que le psaume signifie. C'est pourquoi il est dit dans le Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire quoi? Que si une personne se détourne du bon chemin, ça veut dire que pendant qu'elle était enfant, on ne l'a pas instruit dans cette voie. Vous me suivez? Car Dieu dit que si un enfant est instruit dans la bonne voie, lorsqu'il vieillit, il ne peut pas s'en détourner. Jésus encore traduit cette autre parole en disant ceci, que si une maison est posée sur une bonne fondation, quel que soit le vent, la tempête et les problèmes, la maison ne s'écroule pas. Alléluia. Alléluia. Un homme qui n'est pas fidèle, par exemple, on a beau lui expliquer, on l'amène en conseil, tout ça là. 3 mois plus tard, il regarde encore dehors. Le problème n'est pas de lui donner des conseils bibliques et qu'il aille voir le pasteur, parce que prions pour lui. La fondation a été atteinte. Il y a des valeurs qu'il n'a pas eues dans son enfance. Et le conseil, quand vous lui expliquez, il regarde, il peut être là même, parce que tu as menacé de partir. Il peut dire, chérie, tu es ma vie. Je te promets, plus jamais. Je t'assure, ma soeur, quand il parle, il est sincère. Mais sa sincérité là, c'est quelque part de la justice. Or, la justice n'est pas tenable s'il n'y a pas les bons fondements. Donc, quelques temps plus tard, lui qui a pleuré et qui t'a promis, plus jamais ça. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas rater l'enfance. Et si vous l'avez raté, il faut racheter le temps. C'est pourquoi quand vous commencez vos entreprises, il ne faut pas rater la période de l'enfance. Quand votre entreprise commence, ne pensez pas que le plus important, c'est de faire des chiffres d'affaires. Ce n'est pas les chiffres d'affaires. Ce n'est pas de faire de grands bénéfices, c'est de poser les bases. Car vous êtes convaincu que votre entreprise va donner son fruit. Écoutez, jamais un arbre ne donne son fruit étant enfant. Vous me suivez? Ce n'est qu'à la maturité qu'on récolte le fruit. Le fruit ne se mange que dans la maturité, jamais dans la période d'enfance. Vous voulez avoir des résultats d'une chose que vous commencez. Vous voulez que votre cube soit pleinement épanoui à ses débuts. Tout début est intéressant. Mais vous allez connaître l'épanouissement total de votre foyer dans sa période de maturité. Amen. Amen. On ne mange pas le fruit d'un manguier qu'on vient de planter parce qu'il n'en a pas. Alléluia. La mangue que tu as mangée avec ton conjoint dans les fiançailles, pour qu'elle donne son fruit, on va l'enterrer d'abord. Et tu vas dire à ton conjoint, mais où est la mangue du début là? Quand on était ensemble dans nos premiers jours de fiançailles, on était si heureux, mon chéri. Où est-ce que c'est parti? Vous avez semé la première joie. Vous êtes venu, vous avez vu que ensemble vous pouvez manger. Vous avez pris cela, vous avez enterré. Ça a commencé à pousser. Ça va prendre le temps. Mais quelquefois, depuis l'enfance, comme l'âme ne donne pas son fruit,
Vous dites, c'est plus la peine. Écrasons en même temps l'arbre. Vous détruisez votre foyer. C'est pas possible. On peut pas s'entendre. J'attendais le fruit de l'amour, le fruit de l'entente, le fruit de la complicité conjugale, le fruit de quoi encore? Hein? Je voulais que toi, mon mari, tu dois me comprendre, tu dois connaître mes sens, tu dois savoir ce que je veux. Ça, c'est le fruit. Mais le fruit ne se mange pas dans l'enfance. Des foyers se sont brisés parce qu'ils voulaient manger le fruit trop tôt. Toi, mon mari, tu ne me connais pas encore. Tu ne sais pas prendre soin de moi.
Amen. Quand vous étiez fiancé ou avant les mariages, il savait prendre soin de toi parce que là, vous n'avez pas encore semé le noyau de la mangue. Donc, quand vous mangez la mangue, c'était bon. Elle était succulente. Vous la prenez, vous dites, toi et moi, ensemble, pour la vie, vous semez et vous devez travailler. Et après, la même mangue que vous allez manger va produire beaucoup d'autres mangues. Mais il y a un moment donné où il n'y a pas de fruits, où il n'y a pas la joie que tu escomptais dans ton foyer, où tu n'as pas le bonheur que tu aurais souhaité avoir. Tout simplement parce que on ne mange pas le fruit dans la jeunesse. On mange le fruit de la maturité. Malheur au pays dont les princes veulent manger dès le matin. Parce que quand tu veux manger dès le matin, tu détruis tout. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Maintenant, le fruit n'est pas encore arrivé. Où est la mangue du bonheur? Où est le fruit du bonheur? Où est le fruit de la joie entre nous? Notre couple n'est même pas joyeux. On ne s'entend même pas. D'ailleurs même, si on ne s'entend pas, divorçons. Attention. Vous êtes en train de rater une saison. Amen. Il y a une saison de clash. Il y a une saison de confrontation, d'idées. Il y a une saison du chercher. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Alléluia. Donc je dis tout ceci en fait pour poser les bases déjà qui nous amènent bien sûr à la septième loi qui est la loi du rachat. La cinquième loi, ça nous permet de comprendre ce qu'on va dire sur le rachat. La cinquième loi, j'ai dit apprenez les lois et les clés en résolvant les problèmes avec Dieu. Bon, je l'ai un peu reformulé pour durant la jeunesse. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 13. 1 Jean chapitre 2 verset 13. Donc, dans les saisons de la vie, l'enfance peut être une période assez agréable. On n'a pas les fruits, mais généralement, on se dit que c'est nouveau, mon entreprise est nouvelle, bon, je vais investir. L'enfance, de toute chose, est une période où on investit. Pour le père, pour celui qui initie le projet, est une période d'investissement. C'est une période d'investissement pour votre entreprise, c'est une période d'investissement pour votre couple, c'est une période dans laquelle vous investissez en vos enfants. Amen. Et vous n'attendez pas immédiatement des résultats. Pour vraiment comprendre l'enseignement des saisons, vous n'avez juste qu'à regarder l'éducation des enfants. Comment est-ce qu'on les éduque? Vous allez comprendre comment fonctionne la vie. Amen. La Bible dit que la sagesse de Dieu, alléluia, la sagesse de Dieu se trouve dans les choses qu'il a faites, dans les choses qu'il a créées. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 13 dit ceci. Là nous sommes dans la saison de la jeunesse. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Au verset 14, il est dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Dis avec moi, triomphez du malin. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, en parlant de la saison de la jeunesse, dit ceci, qu'il parle d'un affrontement avec le malin dans la période de la jeunesse. Quand vous lisez l'ensemble du contexte, on avait lu au début en introduisant le message, on avait dit, il dit, je vous loue petits enfants, parce que vous avez connu Dieu, parce que vous l'avez rencontré, parce que vous avez connu la vérité. Il arrive aux jeunes gens. Donc la période de l'adolescence, la période de la jeunesse, dans tout ce que vous faites, cette saison-là. Il dit, je vous loue parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous ai dit ceci, que s'il le dit justement, c'est que la saison de la jeunesse est la saison où vous rencontrez le malin. Où vous rencontrez les oppositions. Où vous rencontrez les obstacles. Alléluia. Parce que pour vaincre le malin, il faut le rencontrer. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. On peut le lire ensemble ce passage. Il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lisons-le ensemble. 1, 2 et 3. Amen. Je voudrais m'excuser pour les frères qui sont à l'extérieur. On a des problèmes techniques, ce qui fait que je pense que vous n'avez pas la projection des versets. Voilà, c'est par la grâce de Dieu, ça va être réparé dans quelques temps. Amen. Donc, si vous êtes assez à l'extérieur, vraiment, tenez votre Bible, parce que pendant, vous n'allez pas avoir les versets à l'écran, voilà. La Bible dit dans ce passage que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ici, ce passage est très intéressant. Très intéressant. Dis un voisin intéressant. Dieu dit que le diable n'est pas le problème. Que toute destruction, toute chose qui ne fonctionne pas est due à un problème d'ignorance. Quelqu'un me comprend? Il dit, Dieu dit, si quelque chose est détruit, c'est parce que tu ne connais pas certaines choses. Donc, tout problème qui survient est une conséquence de l'ignorance. Mon peuple est détruit, pas à cause du Satan, pas à cause du diable, pas à cause des sorciers, à cause du manque de connaissances. Et Jésus-Christ, pour confirmer cela, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que suis-je en train d'expliquer ? Que si une chose est dans ta vie et qu'elle flétrit, qu'elle tombe, qu'elle ne fonctionne pas normalement, c'est parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. Si vous partez déjà sur ce principe, vous allez comprendre combien de fois est passionnante la période de la jeunesse. Alléluia. Car la période de la jeunesse vient pour nous donner les lois, les règles, pour nous permettre de comprendre et de connaître les choses. Manquer sa période de jeunesse, c'est refuser pendant cette période-là d'apprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me suivez bien? Donnez-moi un bon amen vitaminé. Non, mieux multivitaminé. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon frère, si ton boulot est détruit, ce n'est pas que les sorciers t'ont envoûté. Il y a une connaissance que tu n'avais pas. Je ne dis pas que le diable n'existe pas et que les sorciers n'existent pas. Ils existent. Il faut chasser les démons. Il y a des moments où il faut mener un combat spirituel. Et même encore là, c'est une affaire de connaissance parce qu'il faut comprendre. Alléluia. Mais le diable fonctionne par l'ignorance. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mon peuple est détruit. Ton foyer est détruit. Parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. Ton corps est détruit. Parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. Tu as perdu ton boulot parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Tu ne travailles pas parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Ton mari t'a chassé parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Ta femme t'a chassé parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Vous savez, je veux que vous réfléchissiez à cela. Parce que rapidement, vous allez attaquer les belles-mères. Laissez-les tranquilles. La belle-mère. Même la belle-mère, même si elle s'oppose, si elle arrive à réussir son plan, c'est parce qu'il y a une information que tu n'as pas. Car si tu l'avais, tu aurais su manager la belle-mère. Alléluia. Quand Dieu te donnait cet homme, la belle-mère était derrière, mais il a dit, c'est ton destin. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Peut-être que ton mari n'a pas la bonne attitude, ou bien ton conjoint n'a pas la bonne attitude. Mais si ton foyer est détruit, c'est parce qu'il y a une chose que tu ignores. Et si tu savais cette chose, tu aurais réglé le problème. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dis à quelqu'un la connaissance. Mes amis, le temps de nous former, d'apprendre est arrivé. Il y a eu un moment donné, c'était très bien. C'était le moment où il fallait chasser les démons en Afrique. Et il faut continuer. On n'a pas fini. On a des équipes de délivrance, on fait les délivrances, on chasse bien les démons. Quand je parle comme ça, ne croyez pas que je suis quelqu'un qui ne chasse pas les démons. Il y a un ministère de délivrance. Amen. Voilà, pasteur y était. Pasteur y était, lève-toi, bientôt. Voilà, si vous avez un problème avec un esprit, mari de nuit, sirène des eaux, tout ça, voyez le pasteur. Amen. On va prier pour vous. Mais vous devez comprendre que ce qui va réellement vous faire sortir, c'est une information que vous allez recevoir. Une connaissance. Chasser le démon, ça ne veut pas dire régler le problème. Mais pour régler le problème, quelquefois, il faut chasser l'ennemi. Alléluia. Mais une fois que l'ennemi est parti, ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Alléluia. Jésus définit cela comment? Il dit ceci, que lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, il part. Quelque temps après, il revient. Et s'il trouve la maison, il trouve la maison balayée et ornée. Mais il n'y a pas de résident. Il repart, il va chercher sept autres esprits plus méchants et ils reviennent. Maintenant, pourquoi la maison est vide? Ça veut dire le démon va revenir parce que la maison est vide. Mais le vide là, c'est l'ignorance. Il dit, il trouve la maison vide, elle est ornée. Le Saint-Esprit est passé par là, il a mis de l'ordre, on a chassé les démons. Mais les démons vont revenir plus terriblement contre ta vie. Parce qu'à l'intérieur, tu n'as pas grandi avec la connaissance, la compréhension des choses de Dieu. Comment Dieu travaille. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, c'est quoi la période de la jeunesse? La période de la jeunesse, lorsque la Bible dit que vous avez vaincu le malin, c'est cette période-là, amen, où vous acquérez la connaissance. Vous l'acquérez par l'affrontement. Par le combat que vous avez contre les difficultés, contre les oppositions. La Bible dit ceci, j'en ai beaucoup parlé ces temps-ci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. On peut lire cela ensemble. Les frères de l'extérieur, si vous avez vos Bibles, si vous pouvez la lire parce que certaines zones sont sombres. On peut lire ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Donc, pour trouver le bonheur, il faut faire quoi? Il faut réfléchir sur les choses. Alléluia. Dans la période de l'enfance, vous êtes chez vos parents. Tu es avec Dieu, il t'est béni, il te donne tout. Tu ne sais pas comment on cherche à manger. Quand tu deviens jeune, tu apprends comment tes parents faisaient pour te donner à manger. Un enfant, lorsqu'il te voit, maman, je veux un vélo. Je veux un vélo. Il sait, peu importe comment tu vas te débrouiller. Voilà. La période de l'enfance paraît assez douce, assez intéressante. Mais ce n'est qu'une saison de la vie. Il va arriver un moment donné où tu seras contraint à commencer, donc à aller à l'école, à apprendre comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on résout cela. Alléluia. La période de la jeunesse est la période où on réfléchit aux choses, où on résout les problèmes. J'ai vu cela un peu, vous savez, ceux qui, pour les instituteurs, les enseignants, vous voyez, quand l'enfant est enfant, on lui donne des petits exercices de base, apprendre à écrire. Plus il progresse, après, on lui donne des problèmes à résoudre. En classe, on dit problème. Ça commence à dire, non? Problème. Parce que les instituteurs et les enseignants savent que si l'enfant ne règle pas les problèmes, ce n'est pas bon. Donc, on écrit dans le devoir, on dit problème. On ne dit pas solution. On dit problème. Trouve la solution. Et puis, on t'explique une histoire. Ça fait partie de l'éducation de base. Tout le monde sait qu'il faut confronter le jeune à des problèmes pour qu'il apprenne.
Dieu doit te confronter à des problèmes. Les problèmes que tu rencontres, Dieu veut que tu trouves les solutions. Avant, tes parents te donnaient le fruit des solutions eux-mêmes. Dans la Genèse, tu dois trouver les solutions. Et la Genèse se caractérise par l'arrivée massive de problèmes. Comment je sais que j'ai fini la période de l'enfance? Les problèmes arrivent. Résous-les. Alléluia. Alléluia. Je suis dans mon entreprise. Mon fournisseur me dit, je ne te fournis plus. Il a coupé avec toi. Tu n'en as plus d'autre. Problème. Je te dis, trouve la solution. Amen. Lorsque tu commençais ta boîte, tu avais déjà tout établi, fournisseur, à qui tu vendais tes produits, tout ça. Celui qui achetait tes produits, tu faisais un bon petit marché, ton oncle était placé dans l'autre société, il a dit, ma fille, je vais t'aider. Hein? C'est moi qui donne les agréments. Par exemple, je donne fourniture de bureau. Amen, je donne, je te paye, sans problème. Et tu es heureuse, gloire à Jésus. Tu déposes, on te signe ton chèque. Et te voilà avec quelques centaines de mille ou des millions. Alléluia, alléluia. Et subitement, ton oncle change de poste. Ou un problème survient. Et Dieu veut que tu apprennes à résoudre, à faire marcher la boîte. Lorsqu'on n'a plus un oncle haut placé. Comment ça fonctionne? Lorsque je n'ai personne pour m'aider comme homme, comment je fonctionne? C'est dans la période de la jeunesse que des personnes, les hommes commencent à vous lâcher. C'est dans la période de la jeunesse qu'on vous abandonne. Quand vous avez besoin du pasteur, vous avez besoin de parler avec lui, le pasteur n'est pas là. Dieu m'a même fait exprès. J'ai demandé rendez-vous au pasteur jusqu'à... Tu deviens jeune. Bats-toi. J'ai envie d'aller voir le pasteur. Pasteur, ça ne va pas à la maison. Prie. Le pasteur n'est pas là. Problème. On fait le tableau, vous allez à l'école primaire, non? Problème. On pose le problème. Après, il y a un qu'on dit quoi là? Opération, résultat. Les opérations, là, on te les a apprises à la base. Maintenant, avec ce problème, ce que tu as appris dans la base, ce que tu as appris, Jésus est bon, il est fidèle, Jésus exauce. Utilise ça. Fais les opérations pour avoir le résultat. Alléluia. Les premiers exercices, le maître lui-même, il dit, voilà comment on résout un problème. Une fois, deux fois. Il dit, petit, vas-y. En ce moment, tu as t'arrêté. Le maître, il est méchant. Il n'a qu'à m'expliquer. Est-ce que ce n'est pas mon maître? Mais tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas porter du fruit si tu n'aurais pas les problèmes. Et c'est ce que je vous ai dit dimanche. La douleur est un signe d'école. Lorsque les souffrances se lèvent, lorsque les problèmes viennent, c'est là qu'on apprend les règles et les lois et comment les choses fonctionnent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Arriver à maintenir ta structure, arriver à trouver les problèmes de ton couple te font grandir. La période de la lune de miel est finie. Où c'était marre, chérie, bisous, bisous, où tu es? Chaque deux minutes, où tu es? Je suis au boulot. Tu rentres à quelle heure? 18 heures, tu me manques. À tout moment au bureau, on s'envoie des SMS. Je pense à toi. Je pense à toi, chérie. Oh. Ce week-end, on fait quoi? On va à la plage. Ah, gloire à Dieu. Après un moment donné, je dis c'est bien. Ça, c'était l'enfance de votre couple. La jeunesse, on vous pose les problèmes. Dieu dit, tu connais les bases, non? Fais les opérations. Et donne-moi le résultat. Le résultat, je veux que tu trouves. Comment ça fonctionne? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Celui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Dieu veut travailler ta réflexion. Dieu n'a pas donné le cerveau, alléluia, pour qu'on s'asseye et que tout tombe du ciel comme de la pluie. Pourquoi Dieu aurait-il créé le cerveau alors? Le cerveau peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais nous, on ne veut pas l'utiliser. Dieu a déjà donné la solution dans ta tête. Tu sais trouver des médicaments. Tu sais te déplacer. On dit non, Dieu, si je marche avec toi, tu règles tout à la fois, sans que je souffre. Si je m'appuie sur l'Éternel, je ne connaîtrai pas la souffrance. Non, pour Dieu, ce n'est pas une souffrance. C'est l'école. Est-ce que quand le maître te donne un problème, il te fait souffrir? Quelqu'un saisit. Alléluia. Alléluia. Vous ratez votre jeunesse. Vous ratez cette saison. Quand vous refusez d'apprendre les lois. Quand vous fuyez tout. Vous fuyez les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ça ne va pas dans votre couple, divorce. Ça ne va pas dans votre boîte, vous fermez, vous renvoyez tout le monde. Ça ne va pas ici, vous abandonnez. Tu abandonnes toujours tout. Tu arrives à l'église. Tu as décidé de te servir dans cette église. Oh, tout va bien. Alléluia, gloire à Dieu. Dès que survient un problème, changeons d'église. Tu n'apprends pas à résoudre les problèmes. Tu les fuis chaque fois. Tu es en train de rater ta jeunesse. Amen, amen, amen. Sixième loi. Amen. Régner durant la maturité. Je l'ai plus ou moins dit en parlant. La maturité, l'âge adulte, dans toute chose, c'est le moment où tu commences à jouir des fruits et tu poses des actes assez particuliers. Où tu vas passer maintenant, tu as connu les lois, tu as compris les principes, tu as compris les règles, tu vas passer à la phase de la multiplication. Alléluia. Donc, frère, ce que nous avons retenu déjà de la période de jeunesse, c'est que ne croyons pas que parce que nous sommes croyants, parce que nous sommes chrétiens, Dieu va nous exempter des problèmes. Nous devons apprendre, nous devons nous former, nous devons apprendre comment le commerce fonctionne, nous devons apprendre les règles, nous devons apprendre les lois, nous devons sonder les choses, nous devons apprendre à réfléchir, nous devons faire travailler l'intelligence que Dieu nous a donnée en nous appuyant sur l'Éternel, bien sûr. Amen. Disant, Seigneur, c'est par toi que je vais résoudre ce problème. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. La sixième loi, c'est rentrer dans le règne durant la maturité. Et qu'est-ce que j'expliquais rapidement par le règne? Je mets épanouissez-vous, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Alléluia. Et je vous disais tantôt en introduction que l'homme a été appelé à dominer. C'est quoi la maturité? La maturité, c'est lorsque maintenant tu jouis du fruit de ton travail, de tes efforts. Tu sais comment est-ce qu'on amène à manger à la maison? Tu sais comment travailler pour avoir tes résultats? L'âge adulte, c'est l'âge souhaité. C'est l'âge, c'est la saison, pour parler en termes de saison, c'est la saison où tu es censé avoir un type d'épanouissement. Pas que tu rentres dans la paresse. Tu ne vas jamais revenir à la période de l'enfance. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne vas jamais revenir à la période de l'enfance, mais tu sais comment les choses fonctionnent. Et c'est en ce moment-là que tu es prêt toi-même pour te reproduire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 5, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ça, c'est les matures. Alléluia. « Pour ceux dont le jugement est exercé. » Donc, qui Dieu appelle mature? C'est celui qui a un jugement exercé. Ça veut dire quoi? Hein? Qu'il a appris. Ça parle d'exercice. Son jugement est exercé. C'est-à-dire que Dieu lui a donné beaucoup d'exercices à résoudre. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. À discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est quoi la différence? Il y a ce que Dieu nous apprend qui est bien et qui est mal. Nous le savons. Maintenant, il y a la connaissance qui entre en nous par l'usage, c'est-à-dire avec le temps. Qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer? C'est-à-dire que ce qui est bien à faire, ce qui est mal à ne pas faire, on te l'apprend. On te dit, voilà, ça c'est mauvais. Mais il y a un discernement que tu n'obtiens qu'avec le temps. Il dit, dont le jugement est exercé par l'usage. Cela parle du temps. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, Paul, dans ce contexte, dans ce passage, lorsqu'il parlait, il disait ceci à ces personnes. Quand vous regardez à partir du verset 11, il est dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Amen. Donc, voilà des personnes donc qui doivent racheter le temps. Est-ce que vous me suivez? Paul dit, mes frères, vous à qui je parle, logiquement, vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes encore comme des enfants. C'est que suis-je en train de vous expliquer? Qu'en fait, un enfant, selon Dieu, ce n'est pas rattaché à ton âge terrestre. L'enfant, c'est une, pour Dieu, l'enfance, la jeunesse, c'est une affaire de raisonnement. Avec le temps qu'ils avaient passé, ils étaient censés avoir certaines connaissances. Mais ses frères ont refusé leur jeunesse. Ils ont refusé d'apprendre, d'exercer leur intelligence à l'usage. Ce sont des personnes qui ont fui les problèmes. Dis à un voisin, ne fuis pas les problèmes. Résous-les. On t'amène au CEP, tu ne veux pas faire CEP. Tu dis non, je n'aime pas. C'est pourquoi je vous dis ceci. Faites en sorte que vous, les enfants, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient leur examen, ne leur faites pas sauter des classes sous prétexte que non, ses camarades vont se moquer de lui. À cause de son âge, ne faites pas ça. Il doit apprendre la vie. Alléluia. Parmi les valeurs, il faut qu'une personne apprenne il faut apprendre les lois de Dieu, la loi de la semence et la loi de la moisson. Que ce que tu poses, c'est ce que tu moissonnes. Si vous n'apprenez pas cela à vos enfants, c'est ce que j'appelle, ça fait partie des valeurs. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Si vous donnez l'impression à un enfant qu'il peut moissonner autre chose qu'il a semé, vous détruisez sa vie. Vous ne lui enseignez pas les bases. Il faut qu'il sache que quand j'ai fait ceci, il y a une chicotte après. Ou bien, mais quand il dit non, quand tu as fait ceci, papa est miséricordieux et bon et doux. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais c'est la verge qui va l'en éloigner. Alléluia. Je l'avais dit la dernière fois aussi. Dans l'enfance, il y a la chicotte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'âge mature, c'est la période où vous rentrez pleinement dans vos promesses. Et c'est ce que Dieu attend pour vous. C'est là où vous êtes épanoui, ce dont je parlais tout à l'heure. Où vous mangez le fruit. Où vous êtes épanoui. Où votre structure, votre entreprise mange le fruit. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera plus confrontée à des problèmes. Mais lorsqu'elle est confrontée, elle sait les résoudre. C'est la période où vous êtes apte à vous répandre, à ouvrir. Si tu as commencé un magasin, tu le grandis, tu poses les bases, comment il va t'organiser, tu transmets la vision, tu transmets les valeurs. À un moment donné, tu sens que tu dois te multiplier. C'est-à-dire ta boîte, ton petit magasin, tu vas encore ouvrir un autre, tu vas encore ouvrir un autre, tu vas encore ouvrir un autre, parce que la saison est arrivée. Si tu n'arrives pas à l'âge mature, que tu commences à te multiplier avant d'avoir posé les bases dans tes employés, n'est-ce pas? Les employés, tu dois poser les bases. Voilà comment je veux que la structure soit dirigée, voilà comment je veux que les choses fonctionnent, voilà comment je veux que les choses fonctionnent. Si tu ne prends pas, tu ne peux pas ce prix de poser les bases. Quand tu vas ouvrir, tu seras surpris de voir que dans ta succursale, ils t'ont fait un détournement de fonds. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont des entreprises qui ne multiplient jamais. Parce qu'eux-mêmes, dans leur structure, ils ont refusé de passer par la période de la jeunesse où ils devaient apprendre et par la période de l'enfance. Amen. Alléluia. Pour parler un peu aux choses d'entreprise, il y en a tellement. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Dans toute entreprise qui commence, il y a une folie. Quand l'argent va venir, tout le monde va vouloir se servir. Il y aura du désordre, il y a du désordre. Mais il faut corriger. Quelquefois, tu vas renvoyer. Tu vas sanctionner et tu vas poser les bases. Tu vas établir les bonnes procédures. Lorsque tu vas rentrer dans la période de la jeunesse, Dieu va envoyer contre ton entreprise. Il va permettre que des problèmes arrivent. Et il attend que tu les résolves, que tu les règles et que tu tires les leçons et que tu apprennes. Quand tu penses que tu as genoux, que tu te relèves et que tu dis, Seigneur, pourquoi? Tu lui poses pourquoi, il t'explique. Et chaque fois, tu établis les lois, les règles. La réflexion, comment telle chose se produit, à quel moment une boîte peut chuter, pourquoi mon entreprise s'est fermée la première fois quand je l'ai ouverte. Il y a des chrétiens qui ne tirent jamais la leçon de pourquoi leur boîte est tombée. C'est le diable, c'est le diable. Mon frère, ce n'est pas le diable, tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas vendre. Tu ouvres ta structure, ta petite boîte, au début ça marche bien, vente de vêtements, tout le monde vient acheter tes vêtements. Parce qu'au début tu vends de bons vêtements, mais tu ne sais pas parler à tes clients. Tu prends pas. Tes mains quittent là. Si
tu ne peux pas prendre mes affaires, si tu ne peux pas prendre mes affaires, à un moment donné, ta boîte commence à tomber. Tu es confronté à des problèmes. Tu dis, je ne comprends pas, pasteur, venez prier pour moi. Je donne ma dîme, mais ça ne marche pas. C'est pas mon. Là. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu a appris la courtoisie, savoir parler. Jésus utilisait des méthodes même pour gagner les âmes à Christ. Vous suivez? Il faut apprendre tout ça. Et toi, tu refuses d'apprendre. Pasteur, priez pour que les clients viennent, Mais les clients, il y a bien quelque chose qui les attire. Dieu veut t'apprendre. Si vous refusez d'apprendre ces choses, après votre porte va fermer. Et quand ta structure ferme une fois, réfléchis. Pourquoi elle a fermé? Arrête de pleurer. Pleure un peu. Comment expliquer que tant il faut pleurer? Pour chercher les solutions. Alléluia. Et quand tu es mature, tu comprends tous les fonctionnements. C'est ainsi que vous avez des structures matures comme les Microsoft, les grosses boîtes qui se multiplient. Bill Gates, il n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire. Mais son esprit, le rêve qu'il avait, est exécuté pendant que lui, il n'a même pas 60 ans. Il mange, il dort, il joue au golf. Il s'amuse seulement et il se promène avec ses avions. Pourquoi? Quand vous lisez les livres de ces personnes, ils ont pris le temps d'apprendre leurs lois. Ils ont pris le temps de savoir comment on fait un contrôle, comment on établit la comptabilité, comment on gère ceci, comment empêcher quelqu'un de voler. La folie attachée au cœur de l'enfant, tous ceux qui arrivent nouvellement là, il y a toutes sortes. Quelqu'un devant l'argent, il peut devenir fou, c'est la folie. Au début, tu apprends à corriger, tu apprends à mettre les règles, tu apprends à faire en sorte comment choisir ceci. Après, tu vas te rendre compte que non, ta boîte est tombée parce qu'au début, tu as mis ta soeur là-dessus, mais tu as mis ton frère, il ne te respectait pas, il faisait ce qu'il voulait. C'est pourquoi c'est tombé. Donc, tu tires les leçons, tu réfléchis. Et tu réfléchis avec Dieu dans la parole. Et tu, petit à petit, tu établis les règles. À un moment donné, tout se met en marche par la main puissante de l'Éternel. Et tu commences à manger le fruit. Et tu commences à être heureux. Beaucoup de nos projets n'arrivent pas à l'âge de la maturité parce que beaucoup de nos entreprises meurent dans leur jeunesse. Dès qu'elles sont confrontées au problème, la plupart d'entre nous tombent. La plupart des entreprises qu'on a ici, en quel âge? Combien parmi nous peuvent se lever aujourd'hui pour dire, mon entreprise a 30 ans. Pourquoi nos entreprises meurent-elles? Parce que nous refusons, nous ratons la période de la jeunesse. Nous refusons d'apprendre et de nous relever. Alléluia. Or, cela prépare la maturité. Gloire à Dieu. Bon, viens avec moi maintenant, la loi du rachat. Alors, tout ce que je viens d'expliquer, on va lire les passages qui concernent la loi du rachat. Tout ce que je viens d'expliquer, amen. Il se peut que, comme moi, en tout cas, vous constatiez qu'il y a des principes que vous avez manqués, ratés, dans la base, dans l'enfance ou dans la jeunesse. Qui, comme moi, a manqué des bases d'enfance? Qui, comme moi, dans un domaine ou l'autre, a raté certaines bases de la jeunesse? Alléluia. Donc, dis à un voisin, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas pour nous encourager à rester en bas, mais pour te dire que dans tous les domaines, il est très fort probable que dans un domaine donné, que Dieu t'avait donné, tu rates la saison. Tu manques la saison. Tu ne poses pas les bons fondements dans l'enfance. Par exemple, aujourd'hui, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'on essaie, au niveau de notre église, on essaie de travailler, rattraper certaines bases d'organisation, rattraper certaines choses. Quand vous allez arriver à nos bureaux, mais je travaille, vous allez voir, on a une comptabilité, on a une administration, j'ai fait venir des experts, vase d'honneur, hein? Des experts pour nous apprendre les règles, les lois de l'administration, comment on règle ceci, comment on fait sortir un papier, tout ça. Comment on va organiser, et toutes ces choses-là, on travaille. Parce qu'il y a la prédication, mais pour aller loin, il faut comprendre les fondements. C'est pas... Alléluia. Si vous venez comme ça, le culte est bien, les écrans sont là, on n'ouvre pas. C'est un fonctionnement, mes amis. Amen. Il y a des règles. Il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Vous arrivez demain, il y a des écrans, les choses sont positionnées. Mais c'est tout un travail, c'est toute une réflexion. C'est apprendre pourquoi telle chose n'a pas marché une fois dans la vie. Et puis m'arrêter devant l'Éternel pour chercher sa face. Et une fois que les choses commencent à fonctionner, vous commencez à jouer bien. Mais il se peut que malgré ces choses-là, vous ayez manqué certaines lois, certaines règles, certains principes. Et c'est là qu'on appelle la loi du rachat. La loi du rachat va nécessiter ceci. Amen. Et nous allons le dire plus en détail le mercredi prochain. Les principes de l'humilité. pour pouvoir acheter l'humilité. La loi du rachat va nécessiter l'humilité. Parce que le mot racheter, attends, d'où vient l'expression du rachat? Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens 5, 16. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Colossiens chapitre 4, verset 15. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Voilà d'où vient cette loi, ce principe pour la gestion du temps. L'expression racheter le temps parle d'acheter une deuxième fois. Ça veut dire, à un moment donné, ce temps-là a été perdu. Amen. On avait le temps, mais on n'a pas utilisé ce temps à bon escient. Et maintenant, ce passage nous dit de racheter le temps. Lorsque c'est la bonne saison et que je saisis, je ne rachète pas le temps. Je l'achète ou bien je jouis, j'utilise le temps. Quand le temps est passé, le temps où je devais poser les bases est passé, le temps où je devais chercher est passé. Qu'est-ce que je fais? J'ai appris Éphésiens 5, 16. Je rachète le temps. Dis à un voisin, rachète le temps. Donc voici l'opportunité, c'est possible. Il y a une saison du mariage. Il y a une saison pour le mariage, par exemple. Si la saison du mariage est passée et que j'aspire encore au mariage, je dois racheter le temps. Il se trouve qu'aujourd'hui, tu t'en vas à la soixantaine, tu prends un certain âge, mais dans ton cœur, tu aspires encore au mariage. Tu dois appliquer la loi du rachat du temps. Ça va nécessiter quoi? Que tu changes par humilité certaines choses. Juste avec l'exemple du mariage. Tu as passé ta jeunesse. Parce que la saison où une jeune fille ou bien un jeune homme est prêt pour se marier, la saison du mariage, ça se sent. Dans cette saison-là, tu as beaucoup d'avance. Tout le monde vient te voir. Vraiment, tu es belle. Comment ça va? Qui a connu cette saison, les tandis? Tout le monde, non? Est-ce que vous ne constatez pas un âge où maintenant, moins de personnes viennent vous parler? Les tandis. Voilà. Donc, à un moment donné, les hommes ne vous regardent plus. Donc, la période dont vous regardez, c'est la période favorable, c'est la saison favorable. Et ça se trouve dans la jeunesse. C'est une période. À un moment donné, vous passez une autre saison. Il se trouve que pour une raison ou pour une autre, dans cette saison-là, c'est la saison dans l'enseignement sur le mariage, c'est là qu'on dit qu'on nomme les animaux. Amen. C'est là que tu prends le temps maintenant de discerner. Parce que ce n'est pas parce que c'est la bonne période que tu as marié tout ce qui arrive. Non. Tu dois prendre le temps de voir. Mais il y a des personnes qui sont tellement meurtries, qui ne veulent même pas choisir pendant cette saison. Certaines disent, non, il faut me parler du mariage. En ce moment-là, tout ce qui m'intéresse, c'est la vie spirituelle. C'est la vie spirituelle. Je veux prier. Si je prie d'abord, après je verrai. Tu as raison, ma soeur. Prie. Mais il faut savoir que c'est une saison. C'est-à-dire que ça va passer. Donc, prie, forme-toi. Mais à un moment donné, commence à ouvrir un peu les yeux pour pouvoir donner des noms. Pour pouvoir. Parce que si la saison est passée, tu vas te rendre compte que de moins en moins de frères viennent te saluer. Tu rentres et tu vas utiliser le passé maintenant au rachat du temps. Alléluia. 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 Quand il y a une saison, il y a des choses naturelles qui se mettent en place. Et si vous manquez cette saison, il vous faut racheter le temps. Pour, par exemple, une femme qui a un certain âge, il faut racheter le temps. Vous allez vous rendre compte que quand on va mercredi prochain, lorsque j'en parlerai dans ce qui concerne le cas des foyers, dans le livre de la Genèse, le Seigneur explique en fait ce qui attire par rapport au mariage. Ce qui attire, ce n'est pas le visage extérieur. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur. C'est une genre de pensée, c'est une manière de penser dans ton cœur, une manière d'être, qui dégage comme un parfum dans l'air. Et, alléluia, voilà. Et puis, mais c'est une manière d'être. Et puis, ça attire. Mais, bon, n'allez pas expérimenter ça, attendez mercredi prochain, voilà. Mais à un moment donné, par exemple, une femme qui prend un certain âge commence à se former. Elle a des principes de vie. Il est très difficile de s'associer après encore comme ça un mariage, parce que en fait, Par exemple, tu as déjà ta maison, tu as pris tes habitudes. Bon, il n'y a rien que tu dégages sans te rendre compte qui va attirer un homme encore vers toi, tout simplement parce que plus personne n'a quelque chose à t'apporter. Et toi-même, intérieurement, tu n'es pas prédisposé à ça. Parce que quand tu vois qu'un homme va arriver, ah, moi, il va toucher mes heures de prière s'il vient. En même temps, tu veux te marier, mais en même temps, tu vois tout ce que le conjoint va déranger dans tes habitudes. Oh, la jeune fille, en fait, elle n'a pas encore rangé sa vie dans sa tête. Donc, intérieurement, il y a une attitude prête à construire avec quelqu'un. Or, toi, comme le temps passait, tu as fini par construire. Et comme tu as construit, maintenant, racheter le temps. Il y a des choses que tu dois casser. Alléluia. Pour que le parfum de on peut construire encore avec toi se dégage. Tant qu'on aura l'impression qu'on ne peut pas construire avec toi. En fait, les hommes n'ont pas besoin de venir analyser ta maison pour voir, mais tu es déjà, quand on te voit, tu es déjà accompli. Donc, le parfum de construisons ensemble n'émane plus de toi. Or, le mariage, on vient construire ensemble. Toi, tu es déjà abouti. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Quelqu'un, on est marié, on est dans la maison, mais chacun vit sa vie. Tu m'as vu à l'église comme ça, voilà comment je travaille. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Voilà mes règles, voilà tes règles. Lui aussi, il a des enfants, toi, tu as des enfants. Voilà comment j'ai. C'est compliqué. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on va apprendre à racheter le temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Mais dites déjà à un voisin, sois humble. Sois humble. Sois humble. Parce qu'il faut l'humilité. Et l'humilité, là, ça t'amène à revoir beaucoup de choses. Seigneur Dieu des cieux, est-ce qu'on peut se tenir debout? Rindo Bouchatari de Bruce. Éternel, tu nous as appelés pour ta gloire, tu nous as appelés pour ton règne. Tu nous as appelés pour manifester ton règne au travers de nous. Mais pour cela, Seigneur, tu veux que nous apprenions à bien gérer les saisons de notre vie. Nous reconnaissons par ta parole que nous avons manqué des saisons. Manquer des saisons. Seigneur Dieu des cieux, nos yeux sont sur toi pour maintenant racheter le temps, Seigneur. Et si nous sommes à une période donnée, à une saison donnée, pour bâtir comme il faut bâtir, si nous sommes dans une saison d'enfance, dans un domaine quelconque, donne-nous de poser les bases. Donne-nous de donner le rêve. C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Donnez le rêve à tout ce qui commence. Donnez, Seigneur Dieu, les fondements, les valeurs à tout ce qui commence. Donnez, Seigneur Dieu, apprendre à régler les problèmes, à réfléchir, Seigneur Dieu, pendant la jeunesse. À affronter le malin et à triompher du malin, Seigneur Dieu, pendant la jeunesse. À jouir pendant l'âge adulte. Et tu nous dis, Seigneur Dieu, que si nous avons manqué ces choses, nous devons les racheter. Dispose nos cœurs à la mentalité de rachat. Dispose nos cœurs, Seigneur, dans cet esprit, dans cette volonté, afin que nous puissions la saisir et la vivre dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient remplis d'humilité, afin de racheter le temps. Sois glorifié, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Si tu étais